Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture, au micro Tamara. Alors, de nouveau, plusieurs ouvrages à vous présenter aujourd'hui, deux consacrés à la Shoah et deux pour varier un petit peu. Le premier, c'est l'ouvrage d'Aurélie Tramier, Bien-aimée, publié aux éditions La Belle Étoile. Un ouvrage qui est composé en fait de deux récits qui vont bien sûr finir par se rejoindre. L'histoire du saxophoniste Hans Weber, enfermé au camp de Mills au début de la guerre, et sa belle-sœur vient lui rendre visite. Une relation ambiguë, séduction ou passion. Elisa a été l'épouse du jeune frère de Hans, un jeune frère qui est mort des suites de ses combats pendant la guerre 14-18. Quels que soient ses sentiments pour elle, il aurait évidemment l'impression de trahir son frère. En parallèle, la vie au camp est particulièrement rude et c'est le premier extrait que je vous lis. Nous vivons dans la fange. Quelqu'un avait gribouillé cette phrase sur un mur de la Tuilerie pour mettre des mots sur leur étrange situation. Les jours passaient, les nuits aussi. Tout passe toujours, même quand rien ne se passe. L'enfer n'est pas insurmontable, Hans le savait depuis la guerre précédente. Quand on avait survécu aux tranchées, on ne pouvait se plaindre d'être retenu prisonnier dans un camp, aussi sordide fut-il. L'ennui talochait tout sur son passage et vrillait les esprits des plus aguerris. Les hommes tournaient en rond comme des fauves en cage, de l'aube au crépuscule, en chasse d'un remède pour tuer le temps et l'angoisse, car les nouvelles du front n'étaient pas reluisantes. Et un petit peu plus loin, quand on avait tout dit, on se mettait à jouer aux cartes. Là-bas, des médecins s'entretenaient sur un sujet brûlant autour du Nobel Otto Meyerhoff. Des architectes, dont un prix de Rome, réfléchissaient à la meilleure façon de construire des latrines efficaces pour autant de personnes. Tout le monde était fort occupé à ne rien faire et c'était bien la seule façon de ne pas devenir fou. C'est un extrait qui est tiré de la partie rédigée en 1940. De l'autre côté, le deuxième récit, c'est celui d'Esther. Esther est en pleine séparation et elle vit avec son fils Tristan, un ado pas trop rebelle. Son père, à elle, Joseph, lui offre une montre qui lui vient de sa propre mère, mais dont il ne connaît pas l'histoire. Pourtant, c'est une montre très particulière, ornée d'un dessin de Saint Christophe, au dos, un prénom et une initiale, Hans W. Alors bien sûr, pour le lecteur, c'est facile de faire le lien avec le personnage qui précède. Esther se propose un jour d'accompagner la classe de son fils pendant une visite au camp de Mills, une visite qui n'obtient d'ailleurs pas l'approbation de tous les élèves. Et je vous lis un second extrait. C'est du passé tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des problèmes actuels, l'Ukraine, l'Afghanistan, quelque chose qui nous touche plus directement? Le professeur d'allemand le torpille du regard. La conférencière ne se laisse pas démonter. C'est très exactement ce que l'on veut vous montrer, jeune homme. L'objectif de ce mémorial n'est pas de remplacer vos livres d'histoire, mais de répondre à la question « Comment en est-on arrivé là ?» Nous allons vous parler des nazis, mais aussi des Arméniens, du Rwanda. Nous avons étudié toutes les étapes de ces grands génocides du XXe siècle et nous sommes formels. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ce camp n'est pas un lieu de mémoire. En étant aussi averti des dérives possibles d'une idéologie, on apprend à les reconnaître dès les prémices et à ne pas les réitérer. C'est de la prévention. Oui, ce camp s'inscrit dans le passé, mais vous avez aujourd'hui, vous, la nouvelle génération, la responsabilité de ne pas le reproduire. Sur une des photos exposées, elle reconnaît la même montre que celle qu'elle vient de recevoir au poignet d'une femme. Dès lors, Esther n'a plus qu'une idée, découvrir qui est la femme de la photo, parce qu'elle est persuadée qu'il s'agit de la même montre exactement. Malheureusement, sa grand-mère, celle qui possédait la montre, est atteinte de la maladie d'Alzheimer, et avec elle, toute conversation sensée est difficile, voire impossible. L'Alzheimer, c'est comme un volcan. Vous ne voyez que la lave qui jaillit. c'est l'agressivité de votre arrière-grand-mère, mais vous ignorez les raisons qui font gronder des souvenirs, qui font gronder le volcan. Elles sont enfouies trop profondément dans les souvenirs, parfois si anciens qu'elles n'en ont pas gardé de mémoire consciente. Des événements oubliés de la petite enfance peuvent ainsi rejaillir sans que le patient les identifie. Et pourquoi ce serait forcément un vieux souvenir ? Parce que cette maladie efface tout ce qui est trop récent. Jamais Madame Arnoux n'évoque son mari. Dans sa bouche, son fils n'est qu'un enfant. Seule la mémoire la plus ancienne survit. Elle reste larvée dans l'inconscient. Mais il suffit d'une émotion, d'une odeur, d'une musique, d'un mot pour la faire entrer en éruption. Et hop, elle ressort sous forme de crise par la cheminée du volcan dans un langage souvent impossible à décrypter. Ah, mais je vois Marie, notre aide-soignante, sortir de l'ascenseur avec elle. On l'a installée dans un fauteuil roulant, elle était trop secouée. Montrez-vous rassurant, parlez-lui doucement, faites-lui écouter de la musique, prenez-lui la main, restez le plus possible sur du non-verbal. Pour aujourd'hui, n'espérez pas davantage. Esther est perdue dans sa vie au point de frôler la faute professionnelle. Avec son fils Tristan, elle va se lancer dans cette quête par curiosité, par défi. Et puis très vite, ses recherches lui permettent de retrouver un sens à sa vie et une filiation. Les recherches d'Esther et Tristan, bientôt suivies par celles de Joseph, vont les entraîner aux archives du mémorial de la Shoah à Paris. Ensemble et séparément, ils vont retrouver et assembler des pans de leur histoire familiale et de celle d'Aimé, la grand-mère d'Esther. L'histoire de Hans et Elisa, malgré les conditions terribles imposées par la guerre, est romancée et idéalisée, peut-être parce qu'elle est en partie imaginée à partir de traces, des lettres, des registres, des articles. Au contraire, la vie d'Esther et Tristan, c'est celle du quotidien, soumise au stress, à l'anxiété, à la frustration, au conflit, ce qui menace de séparer les êtres, même quand ils s'aiment. Les recherches sur l'histoire de la famille permettent à Esther de se réconcilier avec elle-même d'abord, mais aussi avec ses proches et surtout avec l'avenir. Dans ce roman qui nous entraîne dans le sillage de la Grande Guerre pour affronter l'horreur de la Seconde, de la Shoah, l'horreur nous fait aussi découvrir le traumatisme des enfants cachés. Et c'est par cette citation que je terminerai. Aimée, elle, se l'était promis, jamais on ne lui arracherait son enfant. Elle ne pouvait en avoir qu'un. C'était déjà tant de soucis pour elle qui déployait ses ailes de jour comme de nuit. Et cette femme a consacré sa vie à mettre des bébés dans les bras de leur mère, à leur vraie place. Il étreint doucement la main d'Aimée, puis il la porte à ses lèvres. Il comprend enfin. Pour lui, elle a eu l'élégance du silence, celui qui n'écrase pas, qui ne brise pas un gamin qui grandit, celui qui lui laisse une chance de s'épanouir. Aurait-elle pu vivre avec un tel fardeau ? Une mère orpheline, une grand-mère morte à Auschwitz, un grand-père victime de la Grande Guerre, un grand-oncle parti dans le mur. Se taire est une manière de tuer, d'effacer, de ne pas faire revivre pour ne plus partir. L'art du silence comme antidote à la souffrance. Un récit traversé par les horreurs de la guerre, mais porté aussi par les liens et par la musique. C'est Bien aimé de Aurélie Tramier, publié aux éditions La Belle Étoile. Un second ouvrage consacré à la Shoah, c'est Retrouver Estelle Mouflarge, le texte de Bastien François, publié chez Gallimard. Dans ce texte, l'auteur retrace la vie d'une très jeune fille juive assassinée pendant la Shoah. Mais pourquoi elle ? Pourquoi Estelle ? La question a été récurrente, écrit-il. J'ai chaque fois répondu la vérité, par hasard. Lisant un journal, j'ai découvert qu'il existait un site sur Internet conçu par Serge Klarsfeld et Jean-Luc Pinol permettant de localiser les lieux où les enfants juifs déportés par la suite avaient été arrêtés. Par curiosité, je suis allée sur le site et ne sachant pas qui chercher, j'ai entré mon adresse, rue Caulaincourt, dans le 18e arrondissement de Paris. Et son nom est apparu, 89 rue Caulaincourt, à quelques immeubles du mien. Ma voisine, une jeune fille de bientôt 16 ans, voilà, aussi simplement que cela, par hasard. Par hasard, c'est vrai, mais c'est insuffisant. Je ne m'en suis pas rendu compte ce soir-là, mais ça a fini par me sauter aux yeux. J'ai immédiatement éprouvé de la tendresse pour Estelle. Cette tendresse que l'on ressent pour ses propres enfants. Une tendresse sans attente, la tendresse de les sentir là, simplement présents, la tendresse de leur présence. Estelle m'a tout de suite été présence, une présence douloureuse toutefois. Alors, il refuse de s'inscrire dans ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Il s'agit plutôt, dit-il, d'un devoir d'histoire. Je comprends tout cela, écrit-il, mais je ne veux pas m'inscrire dans ce cadre. Cette mémoire est en réalité fortement polysémique. Il y a d'abord la mémoire figée dans une forme, c'est celle de la mémoire de la Shoah en France, une mémoire constituée de listes, d'inscriptions. Une mémoire qui se lit sur un mur, une mémoire prise en masse où chaque nom fait sens dans le lien qui l'unit à celui qui le précède et à celui qui le suit. C'est une mémoire indispensable, mais c'est une mémoire pauvre. Elle dit le crime, relie les victimes, sidère par son effet de masse, mais ne dit rien d'Estelle. Ne peut rien dire d'elle si ce n'est attester son inscription dans l'histoire du crime, attester son statut de victime. L'auteur cite Aaron Appelfeld, qui explique qu'écrire sur la Shoah, c'est un acte de rébellion contre l'effacement qu'a voulu provoquer l'extermination. Ses recherches lui permettent alors de sortir de l'abstraction des faits et des chiffres, parce que ses recherches appellent un cadre, une situation, des détails. C'est l'occasion de comprendre la situation des Juifs en France, les lois mises en place, les discriminations, la mise en pratique complaisante de certains services qui vont jusqu'à devancer les ordres, par exemple en établissant un recensement des élèves juifs dans certaines écoles avant même que l'ordre n'en soit donné. Et je vous lis un autre extrait. La police n'est pas la seule à avoir recensé Estelle comme juive. En consultant aux archives départementales de Paris le livre de classe du lycée Jules Ferry, les grands registres à la couverture cartonnée où est consignée la composition des différentes classes, je découvre qu'à côté de son nom, dans le registre de l'année 41-42, apparaît la mention « juive ». Je me souviens n'avoir pas bien compris ce que je lisais dans la marge, à la droite de son nom, m'être demandé pendant une seconde, peut-être plus, ce que signifiait cette notation. J'avais d'abord cru lire « juin ». Je me souviens avoir caressé lentement du doigt ce « juive » avec le grand « J » souligné, comme pour en éprouver la réalité, dans l'épaisseur d'encre laissée sur le papier, et en ressentir la violence. Une graphie acérée à l'encre noire qui contraste avec l'écriture plus ronde d'un couleur bleu nuit qui couvre tout le livre de classe. L'auteur partage son enquête minutieuse sur les traces d'Estelle, fait revivre une famille, un milieu, traquant les lettres échangées, les bulletins, ces registres parfois inaccessibles. Il y a un côté tellement aride dans sa recherche, mais aussi une volonté remarquable de réunir tous les éléments accessibles pour associer un nom qui figure sur le mémoire de la Shoah, pour le sortir de l'anonymat qui entoure sa disparition. Et je vous lis un dernier extrait. La liste des sélectionnés provient du convoi 61 et presque tous les enregistrements les concernant, matricules, fiches de renseignement, affectation au commando, certificat de décès dans le camp à partir de janvier 44, ont été réunis au moment de l'évacuation du camp devant l'avancée des troupes soviétiques. Aucune liste n'a jamais été établie par les nazis des morts dans le transport et le nom de celles et de ceux qui ont été conduits directement à la chambre à gaz. Ceux-là n'ont pas été recensés. Impossible donc de savoir si Estelle est entrée dans le camp, y a été enregistrée et tatouée avant d'être affectée à un commando de travail, ou bien si elle a simplement été assassinée à l'arrivée du train. Impossible de savoir quand et comment elle est morte. Ce qui est certain, c'est qu'Estelle n'est pas revenue d'Auschwitz. Voilà des extraits de Retrouver Estelle Mouflarge, l'ouvrage de Bastien François, cette quête minutieuse sur les traces d'une adolescente victime de la Shoah, un texte qui vient de paraître chez Gallimard. Et puis, dans un registre pas vraiment plus léger, mais en tout cas on quitte le domaine de la Shoah, L'ouvrage de Meredith Hall, Plus grand que le monde, c'est Philippe Ray, un roman traduit de l'anglais américain, qui nous raconte l'histoire d'un couple d'abord. Ils s'appellent Doris et Tup. Ils se marient dans les années 30. Elle quitte les siens pour le rejoindre sur ses terres et à deux, ils vont fonder une famille aimante, une famille qui travaille dur au rythme des saisons et des exigences du travail de la ferme. Ils ont trois enfants et même si le travail est rude, c'est une belle vie et ils en sont fiers. Jusqu'au drame, qui provoque la mort de leur fils aîné, Sonny. Le roman donne alternativement la parole au père, à la mère et à leur fille, Dodie. Chacun se referme en un premier temps sur sa douleur et la culpabilité l'étrangle. J'ai choisi de vous lire quelques extraits pour parcourir ce long chemin depuis le deuil jusqu'à une forme de résilience. Le père d'abord. Il n'y a pas d'échappatoire. Ce que nous faisons reste dans le monde. Alors nous espérons être pardonnés. À qui demandais-je ce pardon ? Au fils que j'ai autorisé à jouer avec un vieux pistolet ? À Dieu ? À Doris ? À Dodie et Betson ? Et quelle différence cela fait-il maintenant s'il me pardonne ? Nous vivons notre vie en espérant ne pas causer de mal, puis nous nous retrouvons à devoir faire face à nous-mêmes. Ensuite, je vais vous lire quelques extraits qui donnent la parole à leur fille, Dodie. Les tâches de la ferme sont grandement propices à ce type de pensée. J'ignorais que les hommes et les femmes avaient autant de temps en travaillant pour réfléchir aux questions qui troublent la nuit. Je me souviens que les longues heures calmes pendant lesquelles nous jouions étaient comme une lumière qui se déversait sur nous, une rivière d'émerveillement infini. Nous n'avions pas encore de pensée que nous bataillions pour éviter. Un petit peu plus loin. J'ai Monsieur Creighton en anglais. Il avait mis un mot à l'intention de ma mère, lui suggérant d'emprunter pour moi des livres à la bibliothèque régionale. Je l'avais montré à mon père, qui m'avait aidé à écrire une lettre à la bibliothèque d'Augusta pour m'inscrire. Monsieur Creighton avait établi pour moi une liste de livres qui, pensait-il, pourraient me plaire, et j'avais envoyé une demande. Dans la semaine qui avait suivi, un livre était arrivé au courrier. C'est comme si M. Creighton avait ouvert une grande porte jusqu'à la fermer et m'avait poussé sur le seuil. Papa et Beston eux aussi empruntent des livres que nous lisons ensemble dans les cercles de lumière des lampadaires du salon. Ce sont des heures joyeuses pour nous tous à la fin de nos longues journées. Cet automne, j'ai déjà lu La case de l'oncle Tom, Anna Karénine et Jane Eyre, mon préféré. J'ai aussi reçu l'Iliade, mais papa a suggéré que nous lisions ensemble et il nous en fait la lecture tous les soirs de sa voix douce et posée. Une histoire d'amour, de violence et de regret. Papa a un livre de pièces de Shakespeare et on a prévu d'essayer d'en lire quelques-unes ensuite. Le monde s'est ouvert à moi et j'en suis reconnaissante. C'est très étrange de me dire que tout était là depuis toujours et que je n'en savais rien. Qu'y a-t-il d'autre dans ce monde ? Un petit peu plus loin encore. C'est comme si des parties de nous se détachaient, morceau après morceau. Peut-être que si papa retournait dormir dans la chambre avec maman, il n'aurait pas à nous laisser seuls ici. Il travaille toute la nuit, comme pour fuir l'obscurité. Mais nous, ne dormons pas, attendant le retour de Tup, Center, pour nous arrimer à lui alors que les pièces vides de la maison tanguent et nous accusent tous. Puis, avant l'aube, papa rentre, coupe le moteur de son camion et pénètre dans la cuisine. Je l'entends se laver dans l'évier, monter l'escalier, gagner sa chambre, s'allonger pour les derniers moments de l'obscurité. Nous nous endormons enfin, puis les premières lueurs du jour apparaissent et la journée du lendemain commence. Et un peu plus loin encore, je suis en colère, je suis une jeune fille en colère, je le sais. En colère contre ma mère et mon père, contre ce que mon père nomme Dieu, en colère contre moi-même, surtout contre moi-même. Jamais de toute ma vie je n'ai voulu faire de mal, j'en suis sûre. Mon père dit que chaque minute de chaque jour, nous choisissons de faire le bien ou le mal. J'ignorais que je choisissais quelque chose dans la chaleur de cette pièce pleine de rires d'enfants, un jour de grésil, alors que j'avais tout juste 12 ans. Enfin, un petit passage pour donner la parole à Doris, la mère. Autrefois, écrit-elle, je croyais au bonheur. Je n'avais pas compris que nous ne parvenons jamais totalement jusqu'à cet univers-là. Nous le visitons lors de moments miraculeux, puis nous voyageons dans d'autres univers. Et si nous avons un tant soit peu de sagesse, nous refusons l'amertume ou le regret quand le bonheur s'en va. Cette sagesse-là, j'ai mis du temps à l'acquérir. J'avais imaginé des vies de bonheur pour mes enfants, des vies dépourvues de toute appréhension de chagrin. Les leurs avais-je promises ? J'espère que non. Petits, ils ont connu le bonheur, le vrai bonheur. J'espère vraiment la joie au quotidien. Ont-ils mal compris, pensant que cette joie les accompagnerait toute leur vie ? Voilà ce que j'ai envie de dire à Dodie et à Beston. Je suis désolée si je vous ai fait croire à la pérennité de la grâce que nous avions créée ici pour vous. Elle ne dure pas. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai besoin de dire à mes enfants. Mon père m'avait aussi confié que nous accumulons les regrets à mesure que nous vieillissons. C'est vrai. Les regrets ne cessent de s'accumuler. Puis Dodie se tourne vers moi dans la cuisine, sortant de ses propres chagrins et accrochant mon regard au sien, elle me dit « Viens, maman, allons placer les caissettes de semis au soleil. » Les hirondelles s'envolent et planent dans la clarté des champs. Un roman qui raconte cette fracture terrible dans la vie d'une famille, qui risque de les anéantir tous parce que chacun se replie et se noie dans son chagrin, au point de ne pas savoir qu'ils s'éloignent les uns des autres et que le petit dernier, cet enfant devenu trop sage et solitaire, au point que Doris reste là, à la ferme, par devoir, alors qu'elle aurait pu faire des études. Un drame qui va conditionner les décennies qui suivent, jusqu'à ce qu'enfin chacun reprenne le contrôle de son existence, retrouve une place dans cette configuration brisée, soit capable d'envisager l'avenir. Des mots simples, de gens simples, sensibles, intelligents, aussi clairvoyants qu'on peut l'être quand on est écrasé par la mort d'un être cher et qu'on se sent responsable. C'est Plus grand que le monde, le roman de Meredith Hall, et c'est chez Philippe Rey. Voilà, ici s'achève cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.